Quelques pensées encore sur ce livre. Je vous dirais franchement que quand j'ai lu ce livre, j'entends le livre, peut-être je ne sais pas vous, mais on a envie de fermer cette Bible et de dire c'est impossible d'avancer, c'est impossible de vivre. À la gloire du Seigneur. Avec tout ce qui nous est mentionné dans ce livre. Les querelles, les envies, la jalousie, le favoritisme, l'envie d'avoir toujours plus. Et quand on s'examine un peu intérieurement, on est repris. Et d'une manière un peu comme un tourpouré, à chaque fois. Alors, est-ce pour autant qu'il faut fermer donc la Bible et dire « Seigneur, c'est impossible, je ne peux pas avancer. » Non. La Bible nous a parlé déjà de quelques trésors qu'il y a dans ce livre et il y en a. On a besoin de lire et de relire, justement, à la lumière de l'esprit, à la recherchant ce que l'esprit veut nous communiquer. Et par rapport à ce que l'on peut vivre, par rapport à l'époque dans laquelle on est, dans le monde dans lequel on est. Et on voit qu'à travers cet épître, il semble que l'esprit vienne nous dire « Attention ». L'esprit du monde agit avec puissance sur vous. Et il faut le détecter, il faut y prendre garde. Alors, Philippe a parlé de la puissance de la langue. Et le monde, par beaucoup de paroles, l'esprit du monde, agit beaucoup. Alors, le Seigneur veut nous encourager et nous orienter dans ce livre, je pense, entre autres, au cœur et à lui. En opposition à ce monde, en opposition à l'oppression du monde dans notre quotidien, on propose de voir deux aspects dans ce livre qui m'ont touché et qui, je crois, touchent notre quotidien. On va lire quelques versets d'abord sur le premier chapitre au verset 25. Celui qui aura regardé de près dans la loi parfaite, celle de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas auditeur aux dieux, fait leur œuvre, celui-là sera bienheureux. Bienheureux. Il y a plusieurs bienheureux. Et ce livre, il faudrait le lire en parallèle avec Matthieu 5. Celui qui aura regardé de près dans la loi parfaite, celle de la liberté, et qui aura persévéré, sera bienheureux. Chapitre 2, verset 8. Si en effet vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Si vous faites des distinctions entre les personnes, vous commettez un péché. Vous êtes convaincu par la loi d'être transgresseur. Car quiconque gardera toute la loi et trébuchera sur un seul point. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras pas d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras pas ». Or, si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu as déjà transgressé, tu es devenu transgresseur de la loi. Parlez, agissez, comme devant être jugé d'après la loi de la liberté. Leur jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas usé de miséricorde. La miséricorde s'élève au-dessus du jugement. Il y a quelque chose, mais je pense que quand on lit avec attention ces quelques versets qui semblent repositionner la loi et la liberté. Que fait-on aujourd'hui au nom de la liberté? Il suffit d'écouter, de voir ce qui se passe, que de revendications au nom de la liberté. Finalement, la liberté, c'est quoi? Et ça va jusqu'où? Pour celui qui n'a pas trouvé la vraie liberté, la liberté ne trouve jamais de fin. Car a-t-on juste fini d'acquérir quelque chose que l'on pense être la liberté? Eh bien, voilà qu'il y a déjà une contrainte qui arrive derrière. Qu'il faudra vaincre au nom de la liberté pour encore un grand chose. Un peu comme cet alpiniste qui va toujours aller chercher plus loin dans le risque, au nom de la liberté. Il faut mettre sa vie finalement en péril. La loi de la liberté. Quelques versets sur justement cette liberté. En Jean 8, verset 31, Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira, vous rendra libre, vous libérera. De Corinthiens 3. Chapitre 3, verset 17. Alors le Seigneur est l'Esprit, mais là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Alors nous tous, contemplant à pleine découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. Puis un autre passage, Galates 5, c'est un livre qui parle beaucoup de liberté. Christ nous a placés dans la liberté en nous affranchissant, en nous rendant libres, en nous libérant. Demeurez donc fermes, ne soyez pas retenus de nouveau sous un jour de servitude. Puis je lirai ce verset en Luc 17 du Seigneur. Verset 33. Quiconque cherchera à sauver sa vie la perdra. Quiconque la perdra la gagnera. Je pense que ce verset est resté peut-être quelquefois un peu une énigme. On doit se mettre quelque chose qui fait partie de notre être, de notre nature, sauver sa vie. Nous devons sauver notre vie, nous conserver. Le Seigneur nous dit quiconque cherchera à sauver sa vie, la perdra. Et quiconque la perdra, la gagnera. On aperçoit que si on remplace le mot vie par liberté, alors ça prend un sens vraiment très profond. Quiconque voudra, cherchera à sauver sa liberté, la perdra. Et quiconque la perdra, la gagnera. Perdre notre liberté pour trouver la liberté en Christ, dans le Seigneur. Y a-t-il de plus précieux et de plus grand que l'on peut espérer sur cette terre? En attendant de vivre cette liberté en lui pleinement lorsque nous serons avec lui. Il n'y a pas de vraie liberté si l'on ne consent pas à perdre justement la liberté. Et c'est tout ce qu'il y a, je dirais, un peu en fond dans ce livre de Jacques. Comme le Seigneur le dit par la bouche de l'apôtre en 2 Corinthiens 6, c'est « vous êtes à l'étroit dans vos cœurs ». On peut lire ce passage, c'est en 2 Corinthiens 6, au verset 12. Parlons très librement, car Corinthien, notre cœur s'est grand ouvert. Vous n'êtes pas à l'étroit en nous, mais c'est dans vos affections que vous l'êtes. Et en juste retour, je parle comme à mes enfants. Ouvrez largement votre cœur. Les ressources pour combattre la pression du monde, vivre, découvrir ce que c'est que la liberté. Bien sûr, il y a la liberté, il y a deux volets dans la liberté. Il y a la liberté libérée de l'esclavage de Satan. Et tout cela, nous espérons que ici, tout le monde est libéré justement de l'emprise de la main de Satan. Cette liberté, elle nous a été acquise par le sang de Christ à la croix. S'il y avait quelqu'un qui n'était pas libéré, venez à la croix et nous en reparlerons. Christ a payé pour rompre les chaînes dans lesquelles nous étions liés par Satan. Mais est-ce que, étant libérés de Satan, nous pouvons dire que derrière, notre liberté dont nous est parlé dans l'épître de Jacques, cette loi de la liberté, cette antinomie, loi de liberté, fait que nous pouvons faire ce que nous voulons. Nos cœurs sont étreints par l'amour du Seigneur. Et notre liberté va se trouver dans quoi? Dans l'amour du Seigneur. Nos cœurs sont souvent à l'étroit. Pourquoi? Parce qu'ils sont ils sont aux emprises de ce qui nous est dit dans cette épître de Jacques. À la colère, à la querelle, à l'envie. Et au début de l'épître, Jacques parle de cette envie sous un couvert de vie chrétienne. Bon, et le feu, c'est ce que le Seigneur veut, que nos cœurs vivent dans une liberté, la liberté de l'amour pour lui. On parle beaucoup de vie de liberté. La liberté, ce n'est pas ce que je veux. Seigneur, lui-même a pu dire, bon, pas ce que je veux, moi, ce que tu veux, toi. Liberté d'accepter la volonté du Seigneur. Ce n'est pas un chemin, justement, de la liberté du monde. C'est un autre chemin, qui est bien différent. C'est un chemin où le cœur, touché par l'amour du Seigneur, épreint par cet amour, s'élance vers lui, avec lui et pour lui. Séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Et Jean chapitre 15. Et dans ces passages qui concernent la liberté, il est parlé aussi justement de cette loi royale, de la loi qui se résume en quoi ? Tu aimeras ton prochain comme qui ? Comme toi-même. Est-ce que vous êtes arrêté un peu sur cette expression comme toi-même ? Aimer son prochain. Mais on pense beaucoup à cette parabole du bon samaritain. Et d'ailleurs, le Seigneur reprend cette expression à celui qui est venu l'interroger. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Celui qui est venu l'interroger, il dit qui est le prochain. Ça voulait dire quelque part, en gros, il faut se dire, mais qui suis-moi ? Comment aimer son prochain si je ne m'aime pas ? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Et il s'est repris plusieurs fois dans la parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quelque chose d'étrange. Quelque chose qui me surprend. Si l'on regarde la pression du monde, c'est pouvoir être tous des personnes à la ressemblance, peut-être à la gloire de Bill Gates, être un homme d'honneur, être quelqu'un qui réussit dans la vie, quelqu'un à qui tout semble briller. Est-ce que c'est cela que le Seigneur nous demande ? Peut-être que quelqu'un ici désire de vouloir être autre chose que ce qu'il est. Être quelqu'un d'autre. Le Seigneur n'est pas venu chercher des hommes virtuels qui pensent vouloir toujours être quelqu'un d'autre. Ou venir chercher des hommes qui veulent être parfaits, qui semblent être parfaits, à qui tout est, qui ont tout la vie. Ceux qui n'ont pas besoin de médecin, je ne suis pas venu pour eux. Le Seigneur est venu pour ceux qui sont pauvres, qui ont l'esprit compris, qui ressentent leurs besoins et qui sont tels qu'ils sont. Samedi soir, il y a eu ce merveilleux chant qui a été chanté au temple, tel que je suis. D'être entonné, chanté par tous, tel que je suis. Ils sont pénétrés cette dimension, tel que je suis. Le Seigneur nous aime tel que nous sommes. Et c'est là, dans ce que nous sommes, tel que nous sommes, qu'il veut nous faire goûter alors la vraie liberté, la puissance de son amour. Cet amour qu'il veut déverser dans nos cœurs et qu'il veut faire répandre. Alors il y a des choses qui empêchent cet amour de s'étendre. Il y a tous ces désirs, tout ce qui est dans cette épître de Jacques, tout ce qui nous dépend sur la vie, tout ce qui nous bloque dans la vie, le Seigneur vient de dire ton amour, donne-lui de l'espace. Et cet espace de cet amour qu'il veut verser dans nos cœurs, on le trouve dans l'espérance, la foi, l'espérance, dans l'espérance. Notre vie, que serait-elle sans espérance? L'amour n'est rien sans espérance. L'amour aura sa plénitude lorsque nous serons avec le Seigneur. La foi et l'espérance seront ici-bas. L'espérance qui donne de la dimension à l'amour du Seigneur dans vos cœurs. Et qui permet ainsi, dans cet épître, comme nous dit, de pouvoir refléter quelques caractères du Seigneur. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Est-ce qu'on s'approche du Seigneur que quelquefois, ou est-ce que cette approche est quelque chose de quotidien? Approchez-vous de Dieu, il s'approchera. Je dirai encore quelques versets dans cette épître sur un autre sujet qui est la prière qui est présentée. Premier chapitre, verset, on peut lire à partir, revient à partir des versets, comme une marque du joie, mes frères, quand vous serez en vue d'avoir une respiration, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et que la patience est son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. Si quelqu'un de vous manque de sagesse, il demande à Dieu qui donne à tous libéralement. Et qu'il ne fait pas de reproche, et elle lui sera donnée. Et qu'il demande avec foi, ne doutant nullement, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et jeté ça et là. Pour que cet homme-là ne pense pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur, mais qu'il en a certainement ses pensées, inconstant dans toutes ses voies. Dans l'épître, il y a beaucoup de références à aux éléments de la nature, plusieurs fois. Le Seigneur nous parle là par la bouche de chacun, ce passage par rapport à la prière. Et il en parle encore. Verset 16. Je vais directement la prière, mais s'il dit aussi, ne vous égarez pas mes frères, bien-aimés, tous ceux qui vous aient donné le don et tout le temps parfait descendent en haut du Père des Lumières. Donc il n'y a pas de variation dans le jeu. Tout don parfait descendant. Les réponses de prière, tout don parfait descendant en haut. Chapitre 4. Viennent les guerres et les batailles parmi vous. Que se passe cela? Vos voluptés qui combattent dans vos membres, convoitées, mon ami, tuées, ça fait d'argent de dire. Vous ne pouvez obtenir ou contester vos frais de la guerre. Vous n'avez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de dépenser pour vos voluptés. Adultère, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Donc, voudra être ami du monde, se constitue ennemi de Dieu. Pensez-vous que l'Écriture parle en vain à l'esprit qui demeure en vous et dit-il avec envie? il donne une plus grande grâce. C'est pourquoi il dit Dieu résiste aux orgueilleux, il donne la grâce aux orgueilleux. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il s'enfuira de vous, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Et là, dans le chapitre 5, il est parlé encore de la prière. La prière est un sujet qui lui est à part entière. Qui touche notre vie quotidienne. Et là, dans ce livre, il y a une question fondamentale. C'est en fait, quel est le motif de la prière? Quel est le sujet profond de notre prière? Est-ce pour répondre à des attentes personnelles? Ou est-ce, comme le Seigneur veut nous le montrer, pour entrer dans la connaissance de sa volonté, pour pouvoir mettre notre vie en accord avec sa volonté, avec ce qu'il désire accomplir en nous, à travers nous et pour lui? C'est un vrai sujet. Que de tristesse, que de désarroi, que d'âmes qui sont déboussolées lorsque la prière, la réponse à la prière, est devenue contraire à ce qu'elle pensait et dont elle pensait être convaincue. Et que de messages, on se met de la douleur dans les cœurs, allant même jusqu'à dire « c'est parce que vous manquez de foi » ou encore plus cruel « parce qu'il y a un péché dans votre vie ». Chers amis, nous trouvons les réponses, et je pense l'essence même de la prière auprès de notre Seigneur. Car lui-même, Gethsémani, a pu dire que ta volonté soit faite et non la mienne. Méditez sur ces choses. Celui qui avait tout pouvoir, celui qui était dans ce corps, a pu s'exprimer ainsi. Je crois qu'il est bon que nous méditions beaucoup sur les paroles du Seigneur sur la croix. Tant pour notre liberté, parce qu'elles sont vraiment des paroles qui nous donnent la liberté, la dimension de l'amour, la dimension de la vie chrétienne chaque jour. Parce que dans chacune de ces paroles, il y a comme aussi une prière. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Qui pourrait prononcer de telles paroles devant toute la haine et la solitude? Ah, nous serions beaucoup plus prompts et prêts, et je le reconnais moi-même, à prier le Seigneur, anéantis-les, comme les prophètes autrefois. Ce n'est pas possible, anéantis-les. Non, Père, tarde-le, car ils nous savent ce qu'ils se trouve la liberté. Elle est là dans cette parole que le Seigneur communique. Il est au-delà. Il implore le pardon de Dieu pour ceux qui sont là pour le mettre à mort. Que de fois nous ne savons pas ce que nous faisons. Je le confesse moi-même. Mais cette parole du Seigneur vient comme un baume dans nos cœurs et nous la recevons comme pour nous encourager. La prière pour le pardon des autres. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui. Est-ce que chaque jour, aujourd'hui, nous goûtons quelque chose du ciel? Oui, lorsque les tempêtes sont là, nous goûtons beaucoup plus du ciel. Et nous avons besoin de goûter du ciel tous les jours de notre vie. Lorsque la mer est calme, le soleil radieux, goûtons quelque chose du ciel. Cette parole du Seigneur qui s'adresse à ce brigand repentant aujourd'hui est aussi une forme, une réponse à une prière. Sachons découvrir les réponses du Seigneur aujourd'hui. Aujourd'hui, là où tu es, dans ce que tu vis, aujourd'hui, viens goûter quelque chose de ma présence. Seigneur qui s'adresse à sa mère, voilà ton fils, à Jean, voilà ta mère. L'expression de l'amour, l'expression de la prière qui apporte ce que l'on aime entre ses mains, que nous confions. Nous aidons par la prière de pouvoir nous confier les uns aux autres, de nous porter les uns les autres. Et tout cela dans l'amour du Seigneur, cette parole qui nous vient de la croix. L'autre parole, cette parole centrale, est une expression de la souffrance dans laquelle nous pouvons que nous inquiéter. Et souvent, peut-être dans nos vies, il y a ces moments-là, où le cœur n'arrive plus à parler, où il y a le silence. Mais le Seigneur recueille toutes choses. Il peut y avoir, c'est pourquoi. Ils n'ont rien à voir avec ces doutes qui nous ont parlé dans cette première épître. Les doutes sont parlés dans ce premier, dans cet épître, sont liés à quelqu'un qui demande dans une prière et qui, en fonction des éléments extérieurs, comme les flots, comme le vent, qui souffle du nord, du sud, va chercher une réponse par rapport à ce qu'il a demandé. Et il court suivant ce qu'il entend, comme le vent. De droite, de gauche, cherchant à trouver la réponse à ce qu'il a demandé. Alors, il va nous aider. Et combien il nous aide à nous approcher justement de la croix et d'entendre les réponses de certitude. J'ai soif. Une expression toute simple, mais d'une humanité profonde, une humanité bien réelle. Exprimons à nous, Seigneur, aussi dans nos prières, ce que nous ressentons. J'ai soif. C'est court. Oui, souvent dans nos vies, nous avons soif. Et le Seigneur avait soif, certainement, une soif physique, Mais il avait aussi cette soif de ce peuple racheté, de cette gloire. Il verrait tous ses fruits, pour son Père, pour son Dieu. Ayons cette soif-là aussi. Cette soif du Seigneur. Pour tous ceux qui nous entourent, qui sont dans la sécheresse la plus grande, qui ne connaissent pas Christ. Ayons cette soif qui découvre la joie du salut. Et puis, c'est accompli. Accomplir tout ce que le Seigneur veut faire, en fait, en nous et à travers nous et pour lui. On a pensé et on a exprimé souvent peut-être que le ministère, c'était tout ce que nous pouvions faire. J'ai trouvé une définition du ministère qui me semble beaucoup plus belle. C'est plutôt tout ce que le Seigneur fait en nous et à travers nous. Pourquoi ? Parce que tout revient à lui. Quelle était l'essence même de la vie du Seigneur ? Tout revient à mon Père. Tout ce que je fais, toutes ses œuvres, c'était les œuvres de son Père. Son cœur était auprès de son Père. Et puis le cri de la victoire, le retour à la maison. Et le désir de nos cœurs, aller à la maison du Père. Nous puissions vivre déjà sur cette terre quelque chose de cette maison. Refléter quelque chose du très saint Dieu. Refléter dans notre vie quelque chose de cet amour divin. Oui, que nos cœurs ne soient pas comme les Corinthiens à l'étroit. Nos cœurs à l'étroit. Non. Qu'ils puissent être larges dans l'amour du Seigneur. Et alors, nous pourrons refléter quelque chose de lui sur cette terre. Nous serons dans cette démarche constante de nous approcher de lui, et lui s'approchera de nous. Y a-t-il de plus précieux que de voir le Seigneur qui vient à nous ? Il ne force la porte de nulle part, de personne. Il veut entrer, il veut venir. Je crois qu'à travers ces paroles de la croix, on trouve vraiment ce que c'est que la dimension de la liberté. J'aimerais juste rappeler peut-être un exemple qui nous aide à comprendre un peu ce que c'est que cette liberté. On sait tout, cette parole de Pierre. Je te suis comme que tu ailles. J'irai même jusqu'à la mort. Quel amour, quel élan, quelle affection pour son maître. Le Seigneur, j'ai prié pour toi. Et quelques jours après, le maître s'en va et lui dit, suis-moi. Vous voulez venir avec moi. J'étais avec toi. J'étais là. Maintenant, moi je m'en vais. Maintenant, suis-moi. Quel contraste. Nos cœurs sont souvent prêts. Ils sont pleins de cet amour, de cet élan pour suivre le Seigneur. Dans des choses que nous voyons, nous sont palpables. Il y a quelque chose qui vient d'apparaître, justement, que ce que Dieu vient apprendre à faire. Maintenant, suis-moi. Et suis-moi dans quoi ? Dans l'espérance. Je ne suis plus là. Ta foi, il faut qu'elle aille s'ancrer dans le ciel, derrière le voile. Et c'est là que tu vas pouvoir me suivre maintenant. Suivons-le, notre maître. Suivons-le. Il est bien digne de tout notre amour. Et rentrons dans cette liberté de cet amour. Thank you.